I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc je suis pas en train de dire que j'ai pas gagné de l'argent avec Bref, mais c'est juste que ça s'est fait progressivement avec le succès de Bref. En fait, t'as un système de droits d'auteur mais qui tombe que tous les 6 mois et qui met du temps à se répercuter. Puis après, t'as pas mal de... Par exemple, on a fait très peu de produits dérivés. En gros, si on avait fait une saison 2, je pense que là, il y aurait eu un badaboom. C'est-à-dire que si à la fin de l'année... On avait dit à Canal à l'époque, ok, on fait une saison 2, maintenant ça sera temps parce que c'est un succès. Je pense que là on aurait vraiment, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, mais vous êtes cons quoi, c'est à la saison 2 qu'on se fait vraiment vraiment de la maille. Nous on voyait pas le truc, on voulait pas le faire. Et pareil, les produits dérivés, on en a fait très peu, et ceux qu'on a fait nous ont pris beaucoup de temps. Ça a fait que malgré tout, c'est-à-dire que c'est devenu des sommes beaucoup plus grandes, mais qui sont arrivées petit à petit, et donc du coup c'est dur pour moi de voir, tu sais, c'est pas une bascule, bam. Genre du jour au lendemain, il y a un gars, il est arrivé avec une mallette pleine de fric et il me l'a donné. Mais par contre, oui, je suis beaucoup plus tranquille à ce moment-là.
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils ? Comment ils le gagnent ? Comment ils le dépensent ? Comment ils l'appréhendent tout simplement ? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail.
Je suis trop content de t'avoir, tu sais.
C'est vrai ?
Ouais.
De me posséder ?
Oui, pendant...
Ou de t'avoir dans cette émission ?
Pendant une heure.
Ok, de m'avoir dans cette émission.
De t'avoir à moi. Merci beaucoup, Bruno Navo, de venir dans mon podcast sur l'argent.
Moi, je viens dans tous tes podcasts dès que je peux, mais j'ai pas fait d'enfant.
Ouais.
Donc, je peux pas être dans Histoire de Daron. Histoire de succès, on l'a pas fait, je crois.
Non.
Mais j'ai fait Histoire de mec.
Ouais. Mais on pourra faire Histoire de succès.
Dès que tu fais Histoire de beau gosse.
J'adorerais parler avec toi de ton succès. Non, mais c'est vrai. Tu ris.
Avec plaisir.
Ça te fait marrer.
Moi, je suis là, il m'appelle pas. C'est pas encore un succès, il a raison. Il attend encore 10 ans.
J'attends que t'aies une heure de. T'es un spectacle.
Je ferai jamais Histoire de succès. C'est dommage.
Ça ne viendra pas. Pas jamais, hein, on sait jamais.
Non, je dis jamais.
Voilà. Merci beaucoup de venir. En tout cas, je voulais t'avoir dans Histoire d'argent parce que pour moi, il y a deux trucs qui te caractérisent et dont j'aimerais parler avec toi par rapport à l'argent. C'est un, déjà, tu viens d'un milieu modeste. Je crois, dis-moi si je me trompe, mais tu...
Plutôt, enfin, on pourra rentrer dans les détails. Je viens d'un milieu modeste et pas modeste. Parce que mes parents sont divorcés, donc il y a déjà un...
Ok.
Il y a un petit twist.
Et en fait, t'as changé de rythme de vie, t'as gagné de l'argent, en fait, sur un palier, sur un succès qui a été Bref, qui t'a permis de pouvoir booster ta carrière entre autres, celle de tous les gens qui étaient dans le game à ce moment-là. Et en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est que je crois que comme beaucoup... d'intermittents et d'artistes, tu gagnes de l'argent de façon très différée, en fait, et notamment par rapport à tes droits, etc. Et je crois que pour l'intégralité du monde, et notamment des gens qui sont salariés, si tu veux, il y a un truc très opaque autour de ça, et qui, moi, tu vois, en tant que gars qui vient certes d'une boîte et qui avait des revenus différés, tu vois, mais il y a un truc... qui est fou, en fait, c'est que tu sais pas combien tu vas gagner l'année prochaine.
Ouais, c'est vrai.
Ça, je trouve que c'est fascinant.
C'est vrai, parce qu'en fait, dans le... Après, ça reste très théorique, parce que t'as quand même, on va dire, l'équivalent d'une cote. Mais en tout cas, en théorie, tout peut s'arrêter, puisqu'il suffit que les gens trouvent que ce que tu fais, c'est nul du jour au lendemain, pour que tu n'aies plus d'argent du jour au lendemain, en fait. Et donc c'est vrai qu'il y a cette espèce de... Après, moi, je suis pas très anxieux ni rien, donc ça m'inquiète pas plus que ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y a ce truc particulier qui, je trouve, personnellement, devient de plus en plus partagé, même avec quelqu'un qui a un salaire, parce qu'on n'est plus dans une époque où les gens croient réellement, quand ils ont un CDI, qu'ils peuvent pas se faire virer du jour au lendemain non plus. Tu vois, je pense que c'est quand même différent.
Mais alors, j'entends bien sur l'aspect, de toute façon, éphémère de la vie et impermanent de la vie, c'est-à-dire que, en gros, tout change. Mais en revanche, quand t'es salarié, tu vois, et que tu bosses pendant X heures pour un employeur qui va te donner à la fin X euros sur ton compte en banque, dans ton travail, dans ton métier, comme plein, j'imagine, d'humoristes et d'artistes, tu vas travailler à un moment donné X heures. Tu sais pas l'argent que ça va.
Ça dépend. Oui. Ça dépend.
On va en parler.
Non, ce que je voulais dire, c'est que par exemple, maintenant, il est quand même communément admis que, genre, je sais pas, si t'as 56 ans.
Oui.
Et que tu perds ton emploi, il y a peu de chances que t'en retrouves un.
Exactement.
Il y a peu de chances que t'atteignes ta retraite, etc. Et donc, il y a un truc où je pense qu'il y a plus de gens qu'avant. Ce qu'on appelle un peu la sécurité de l'emploi, tu vois, qui ne l'ont plus, quoi. C'est moins.
Oui, je comprends.
Je sais pas si c'est aussi étonnant désormais que ça.
Et puis il y a un autre truc, c'est que tu fais aussi partie de cette catégorie qui a pas de CDI, qui a pas de contrat. Et je sais que j'ai des amis qui sont acteurs, comédiens, qui marchent très bien et qui, par exemple, n'arrivaient pas à louer un appartement dans Paris parce qu'ils ont pas un CDI, quoi. Alors que ils ont des revenus qui leur permettraient de pouvoir allonger très facilement 2-3 ans de salaire de loyer en avance, mais ça marche pas dans le jeu, quoi. Tu vois.
Ouais. Non, moi c'était plutôt le cas en fait. Quand il y a écrit intermittent, tu peux pas. Mais vu que moi dans mon cas j'ai des sous, j'ai pu acheter. Donc en vérité, parce que on voulait pas me laisser louer, je me suis rendu compte qu'en fait il faut acheter de toute façon dans la vie quand tu peux. Donc c'est comme si j'avais évité une douille au départ parce que juste on me refusait. Je pense que j'aurais pu tomber dans la facilité de dire attends, vas-y, on va louer ailleurs, on verra bien plus tard. Et c'était tellement compliqué que j'ai acheté et c'est en achetant que je me suis rendu compte qu'en fait, avant, quand je payais un loyer, je payais le crédit de quelqu'un d'autre. Donc autant payer mon propre crédit.
Tout à fait.
Et c'est un truc que. Pour moi, c'est une des vraies injustices qu'on a dans notre société. C'est ça. C'est de dire, attends, donc quelqu'un qui paye son loyer tous les mois pendant 30 ans, sous prétexte que, à cause de règles arbitraires, il n'a pas le droit d'accéder à la propriété, il aura mis tout cet argent dans la propriété de quelqu'un d'autre. Il est en train de lui payer et là ça se vérifie de plus en plus. Là, il y a des études, des trucs qui disent que je sais plus combien c'est, je vais dire de la merde, mais c'est un truc genre 5% c'est 5% de la population qui détient quasiment tout le parc ou la moitié du parc, je sais plus, de l'immobilier à Paris par exemple. Je dis c'est un peu une carotte quand même. Je peux te dire que si j'étais président, ça ferait longtemps que quelqu'un qui a payé son loyer rubis sur l'ongle pendant 10 ans accède automatiquement à la propriété. C'est que moi, en tant qu'État, je dis, je me porte garant de cette personne. Je veux qu'elle accède à la propriété. Elle a donné la preuve qu'elle était capable de sortir de l'argent tous les mois et de respecter son engagement. Je préfère qu'elle soit propriétaire que locataire.
Navo 2022 ?
Non.
Parce que là, pour le coup, si tu veux pas faire ton heure de spectacle, c'est, je crois, beaucoup plus de travail de devenir président de la République.
C'est moi président.
Moi président. Le truc dont je voulais te parler avant de rentrer vraiment dans l'interview,
pardon, c'est que moi je pars en digression à chaque fois.
Oh, c'est trop bien.
Comme on se connaît, j'ai le droit, je le dis aux auditeurs. On se connaît, je suis pas en train de faire quelque chose de désagréable pour lui. Il savait à qui il se frottait et il aime bien.
J'adore de toute façon.
Ouais.
Et puis si tu pars dans une digression qui est trop digressante,
ouais, je dis ça parce que par exemple quand on fait des fois un bon moment, tu sais, on fait un podcast avec des potes, je leur coupe la parole alors que c'est des potes, on a l'habitude de se couper la parole dans la vie, les gens disent c'est vraiment très peu respectueux. Je dis, ah merde, mais non, en fait non, c'est notre mécanique de discussion, on adore ça, nous on passait un très bon moment, nous. Genre, ouais, mais il a pas pu aller au bout de son propos, mais on s'en bat les couilles.
C'était plus intéressant ce que je racontais. Non, ce que je voulais te dire, c'était, je t'ai envoyé l'épisode avec Christian Junot, le premier épisode que je vous invite à aller écouter, où il parle de, en gros, des bases de la relation à l'argent, et il amène, je trouve, une vision de l'argent du rapport à l'argent qui est assez intéressante, qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre, et de ce qu'on nous a appris ou pas appris, justement, sur le rapport à l'argent dans notre société. Et quand je t'ai dit qu'est-ce que t'en as pensé, tu m'as dit, pour moi, attends, tu m'as dit je suis pas d'accord avec lui.
Non, j'ai dit je suis d'accord avec lui. Mais après, c'est une blague entre nous tout le temps. Donc, je précise que c'est une blague que je fais à Fab tout le temps, où je trouve, où ma blague, c'est de toujours dire que tout est trop de droite.
Ouais. Parce que Navo est trop à gauche.
Ouais, c'est une blague de gaucho.
Voilà.
Mais le, oui, je disais, je suis d'accord avec lui, mais c'est trop de droite. Mais en fait, c'est parce qu'en vérité, c'était pas la question. Tes questions, elles étaient pas politiques et sa démarche, elle est pas politique. Même si sur la fin, il a commencé à parler des gens en communauté et ça devenait limite intéressant puisque ça commençait par commu.
Ouais.
Comme commune, même commune.
Communisme.
Non, OT, il a dit, il a pas dit. Mais du coup, mais en fait, c'est juste que c'est comme si pour moi, en fait, c'est pas grave, je dis pas qu'il fallait qu'il le fasse, et en fait, ça n'aurait pas eu de sens de le faire, mais dans ma tête, faut toujours mettre un disclaimer en disant les règles de ce jeu puent la merde au départ. Parce que lui, il explique comment vivre avec les règles d'un jeu. En fait, si je me souviens bien, lui, il était banquier ou un truc comme ça. Donc, en gros, lui, il a intégré des règles avec lesquelles il a l'air, en tout cas, quand il parle, d'être d'accord. Voilà. Moi, je suis pas d'accord avec les règles de départ du système capitaliste, libéral, etc. Donc, c'est comme si pour moi, à chaque fois, il faudrait un disclaimer en disant. Parce que pour moi, c'est comme si quelqu'un donne des très bons conseils pour gagner à la guerre. Mais sans dire, la guerre, c'est mal. Mmh. Voilà. C'est juste ça, en fait.
Okay.
Mais ça veut pas dire que ce qu'il a dit, c'est de la merde ni rien. C'est
non.
Au contraire, parce que moi, je suis plutôt dans son camp. Je suis pas d'accord avec les règles, mais je gagne le jeu. Donc, je vais pas dire qu'il a tort. Je dis juste que je suis pas d'accord avec le jeu auquel je gagne.
C'est ce qui m'intéressait de t'entendre dire et de te faire dire dans le micro, c'est que t'es pas d'accord avec les règles de jeu, mais en fait, comme il n'y a pas d'autre moyen d'y jouer, bah, autant y jouer.
C'est ça, c'est du pragmatisme.
Pour l'instant, en tout cas. Jusqu'au grand soir.
Bah ouais, mais bon, en fait, c'est toujours délicat comme positionnement parce que c'est un peu facile, quoi.
Tu veux dire ?
Bah, ma position, elle est facile. D'être pas d'accord avec le jeu, mais de gagner quand même, ça peut sonner comme une excuse au fait que je vais pas changer de jeu.
Okay.
Tu vois. C'est-à-dire à quel point, qu'est-ce que je fais réellement pour changer le jeu ? Et donc, beaucoup de gens peuvent me dire « Oui, mais mec, voter une fois tous les 5 ans contre ton propre intérêt, c'est peut-être pas suffisant si tu veux vraiment que le jeu y change, vu la puissance du jeu. » Donc, je me pose pas en héros du de l'extrême gauche et de on va tu vois je suis pas Olivier Besancenot tu vois
mais donc, j'ai un peu tendance à croire que justement pour moi c'est tellement compliqué d'aller changer les règles du jeu avec un grand J ou d'attendre ou d'aller chercher le grand soir tu vois que c'est toujours hyper intéressant de se dire qu'est-ce que je peux changer moi à l'intérieur de moi avant d'aller plus loin et autour de toi aussi de ce fait là forcément.
Ouais.
C'est un peu ma position, tu vois. C'est commence déjà par changer toi-même avant de changer le reste de la société, quoi. Tu vois,
bien sûr.
Colibri.
Mais... oui, sauf que il y a quand même la question de à quel point, en tant que colibri, tu fais ta part. Parce que pour moi, plus tu gagnes en influence, en puissance, en pouvoir, en argent, moins t'es un colibri, plus t'es un pélican, frérot. T'as quand même un gros bec, là, tu vois. Et donc, il y a un truc, voilà. C'est pour ça, en fait, je veux pas que ça sonne. Parce que ça se trouve, c'est le cas. C'est peut-être pour ça que je veux pas que ça sonne comme ça. Ça se trouve, c'est juste le cas. Comme une bonne excuse pour laver ma conscience et me regarder dans le miroir pendant que je profite à fond de tous mes privilèges. Voilà. Donc, je tiens à le préciser pour pas que ça sonne genre, je suis un héros. Voilà. Je m'assois sur mon cul et je dis, ah, ce monde est vraiment nul.
La première question que je vais poser à tous mes invités, que je pose à tous mes invités, c'est qu'est-ce que évoque pour toi, qu'est-ce que ça t'inspire quand je te dis argent ?
Qu'est-ce que ça m'inspire ? Je dirais argent en général ?
Argent.
Juste moi, là, le premier truc qui me vient ?
Ouais.
Domination.
Ok.
Je pense que c'est un des outils principaux de domination qui existe entre les êtres humains.
T'appelles ça domination, t'appelles pas ça échange ?
Échange ?
Ouais. Bah c'est une, enfin tu vois, c'est une monnaie d'échange littéralement.
Oui, mais c'est devenu un instrument de domination. Mais là, on rejoint ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que oui, ben je comprends bien qu'au départ, on a créé l'argent parce que échanger 3 chèvres contre 2 choux plus 4 bottes de paille, c'était relou et qu'il a fallu trouver un truc. Mais dans ce cas-là, c'est pour ça que je te dis argent, c'est vague. Parce que là, je pense que quand tu dis argent, moi j'entends financiarisation et capitalisme. Parce que je pense que le rapport que la plupart des gens ont à l'argent, c'est celui-là.
Et le rapport à ton argent, à toi ?
Le rapport que moi, j'ai à mon propre argent, je dirais liberté.
Ok.
puisqu'on me donne... en gros, on me dit c'est la bagarre, et on me donne un gun, et donc on me laisse tranquille. C'est le fait que j'ai de l'argent, c'est comme si on m'avait donné un gun, et donc les gens disent, bon, mais il a un gun, on le laisse tranquille. Donc il y a un truc qui est très injuste pour moi dans le rapport à l'argent, justement. Mais donc mon propre argent, pour moi, c'est ma liberté. Et je pense d'ailleurs que c'est le problème, c'est pour ça que tout le monde en veut. C'est que c'est pour atteindre la liberté.
Tu crois vraiment
que c'est le seul moyen, de, dans la société où on est, d'être un minimum libre, c'est de pas passer ton temps à te demander comment tu vas payer ton loyer et comment tu vas bouffer.
Ben c'est un peu ce que j'espère essayer de décrypter, de démontrer, c'est que je suis pas si sûr que les gens qui ont de l'argent soient si libres. Tu vois?
Non, ce qui est, non. Les gens qui en ont pas,
ça l'est pour toi.
Les gens qui en ont pas dans notre société,
ne le sont pas.
Donc, ça veut pas dire automatiquement que tous ceux qui en ont sont libres. Ça veut par contre dire pour moi qu'une immense, immense majorité, voire peut-être tout le monde, parmi ceux qui n'en ont pas, ne le sont pas. C'est ça que je veux dire.
Okay.
Je dis pas, ah, dès l'instant où on m'a donné de l'argent, j'étais tellement libre. Je dis, quand j'en avais pas, j'étais pas libre. Je voulais pas me lever le matin et aller dans un bureau, moi. Mais j'étais obligé d'y aller. Je voulais pas payer un loyer à un gars que je connais pas. Mais j'étais obligé de le faire. Et ainsi de suite. Donc, okay. Une fois que t'en as, oui, c'est toujours ce que t'en fais. Mais en tout cas, t'es beaucoup plus libre. Faut pas non plus se raconter. En fait, le piège rhétorique pour moi, en fait, le piège logique, c'est que les gens qui ont de l'argent disent à ceux qui en ont pas que c'est, l'argent fait pas le bonheur,
ouais.
En très résumé.
Oui.
Sauf que c'est pas parce que c'est vrai que quand t'as de l'argent, ça ne fait pas automatiquement ton bonheur, que quand t'en as pas, ça fait pas ton malheur.
Oui, c'est sûr.
Donc la phrase, elle est tricky, en fait. C'est pour ça que maintenant, il y a un peu des...
Il y a ce truc de « il y contribue ».
Il y a un peu des... il y a un peu des préambules en disant « bien entendu, je ne parle pas de la base de l'argent que tout le monde devrait avoir pour se sentir un minimum libre. Je veux dire que... » Voilà. Donc t'es obligé de préciser, parce que l'argent fait pas le bonheur, c'est bien, c'est une formule qui sonne bien, mais on dirait trop qu'on dit que sans argent, on peut être heureux. C'est possible. Je dis pas que tous les gens qui n'ont pas d'argent sont malheureux. Je dis juste que dans la société, vraiment, encore une fois, dans le système dans lequel on est, bah, quand tu peux pas payer ton loyer, t'es pas heureux. Parce que t'as froid. T'as faim. Faut manger. Et tout le monde autour de toi te dit, il faut donner de l'argent si tu veux à manger. Il faut donner de l'argent si tu veux un toit. Donc, ça fait... C'est en fait, l'argent ne fait pas le bonheur, on le dit depuis le haut de la pyramide de Maslow. Tu vois,
ouais.
On dit, une fois arrivé en haut de la pyramide de Maslow, l'argent ne fera pas ton bonheur. Ce en quoi je crois réellement. Mais c'est compliqué, parce que tu le dis à des gens qui, dans leur immense majorité, sont malheureux, y compris parce qu'ils n'ont pas de l'argent, mais pas seulement parce qu'ils n'ont pas de l'argent.
Alors la pyramide de Maslow, pour les gens qui ne savent pas, c'est la pyramide des besoins... naturel, où en gros l'idée c'est d'avoir à manger tout en bas, et puis après tu montes jusqu'à les loisirs et la belle vie telle qu'on la connaît aujourd'hui dans notre beau pays la France, en plus, parce que je crois que la pyramide de Maslow, elle change en fonction des pays aussi où tu te trouves, quoi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est quoi ton premier souvenir par rapport à l'argent?
Mon premier souvenir? Putain, j'ai aucune idée.
T'as pas?
Non.
Avec des petits sous et tout, là?
Ah bah non, c'est bizarre, j'ai pas de... Non, j'ai pas.
Du tout?
Non, je trouve rien. C'est peut-être parce que l'argent n'a jamais été une question dans ma famille.
Ok. Est-ce que tu peux développer ça, par exemple, parce que ça dit quelque chose?
Bah, en gros, moi, j'étais élevé par ma mère qui n'avait pas beaucoup d'argent. Mais c'était pas un problème, tu vois. C'était pas la question.
C'était quoi la question, alors?
La question, c'est, est-ce qu'on se tape des barres? Est-ce qu'on est bien? Est-ce que t'es content? Comment ça s'est passé à l'école? Et donc, du coup, j'arrive pas à avoir un souvenir de... Parce que c'est quoi un premier souvenir par... C'est quoi ton premier souvenir par rapport à l'argent?
Moi,
ça m'inspire, désolé, hein, je retourne l'interview, non, mais c'est pour voir...
Pour moi, mon premier souvenir par rapport à l'argent, c'était mon père qui revient d'une genre d'une mission, tu vois, et il a eu 600 francs de frais de déplacement, tu vois, donc des sous en plus qu'il a gagné, et il nous a chacun donné un billet de 200 à mon frère et à ma sœur. Et en fait, ce billet-là, je l'avais mis dans un petit portefeuille, je sais pas quel âge j'avais, genre 6-7 ans, et je l'ai gardé pendant des années, mais vraiment des années. Je crois que je l'ai gardé pendant 10 ans, jusqu'à m'acheter un truc où vraiment j'étais trop content de m'acheter un truc avec mes 200 francs, tu vois.
Ah ouais, genre tu les as mis de côté, quoi.
Ça en dit long, tu vois, sur mon rapport à l'argent, quoi, tu vois, déjà de base.
C'est marrant. En fait, c'est marrant, ça me rappelle un truc, ça, okay. Par contre, qui, on va dire, peut être comme un premier souvenir par rapport à l'argent. C'est que, en fait, j'avais zéro conscience, parce que ma mère a toujours essayé de nous épargner le problème des problèmes d'argent, ouais. En fait. Ça veut dire qu'on était quand même... Elle arrivait toujours à se débrouiller, elle était beaucoup dans le sacrifice. Donc, il y avait des espèces d'échéances qui paraissaient logiques, mais qui n'avaient pas de rapport avec l'argent. Par exemple, je veux une console. Ouais, mais t'attends Noël. Tu vois ?
Ah oui, elle ne te disait pas...
Maintenant, avec le recul, je me dis, bon, elle mettait de l'argent de côté tous les mois, okay. En se disant, putain, il faut que j'arrive à leur sortir leur putain de console à Noël. Parce qu'ils veulent une console.
Ouais. Elle te disait pas, elle le transformait pas en.
Elle ne sait pas, non mais
on n'a pas d'argent.
Cher. Voilà. Elle m'a jamais dit c'est trop cher.
Ce qui est hyper intéressant, si je puis me permettre, parce que ça.
Bah disons que elle. Je pense que ouais c'est ça, c'est qu'il y avait quand même une partie un peu sacrificielle. Après bon c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il y a mon père de l'autre côté, donc je pense qu'il participait et lui avait plus d'argent. Mais du coup moi la manière dont j'étais éduqué. C'était pas une question l'argent en fait, c'était vraiment l'idée, c'était une idée de tout ce qu'on a c'est à nous tous, on partage, on est bien, voilà. Et donc du coup justement là ce que tu me racontes ça me rappelle le moment où j'ai compris qu'en fait peut-être qu'elle
elle ramait un peu.
Ouais putain je fais l'américain, j'arrive pas à ramer, voilà, c'est à dire struggle, j'arrive pas à trouver le truc. C'est quand t'es
se bagarrer un peu avec
c'est
l'argent.
C'est qu'en fait à un moment elle a trouvé un travail. Et elle a ramené une Game Boy. Random, à un jour qui n'avait pas de lien, c'était pas Noël, c'était pas un anniversaire. En disant, comme j'ai trouvé ce nouveau travail et tout, les enfants, bonne nouvelle, j'ai pu vous acheter une Game Boy. Et c'est la première fois qu'elle établissait un lien entre ce qu'on pouvait avoir nous et ce qu'elle avait elle par rapport à le travail qu'elle pouvait avoir. Donc c'est marrant, ça m'a rappelé ça.
Okay.
Le côté, il revenait d'une mission, il a ramené 600 francs. Moi, c'est genre un jour, elle a ramené une Game Boy, mais c'était random. Et c'est marrant parce que maintenant, je m'en souviens vraiment. J'étais chez ma grand-mère et tout. Tout d'un coup, elle arrive et dit « Bonne nouvelle, il y a une Game Boy ». Et ça m'avait marqué parce que je m'étais dit « Ah ok, avant, elle pouvait pas acheter une Game Boy en fait ». Là, il s'est passé quelque chose dans sa vie. Genre, il y a eu un événement où elle a trouvé du travail. Et donc, elle peut nous acheter une Game Boy. Et c'est tellement une bonne nouvelle qu'elle ait trouvé ce travail qu'elle s'est dit « Ah, je vais leur acheter la Game Boy quoi ». Et c'est là que j'ai fait un lien, okay. Je pense que c'est la première fois que j'ai fait un lien entre le fait que, en tant qu'enfant, moi on était des enfants plutôt protégés des affres de la société, en fait, alors qu'on savait qu'il y avait des pauvres, c'est vrai qu'elle nous parlait des pauvres, mais genre c'était pas nous, tu vois. Nous, en fait, j'avais toujours l'impression d'être le plus riche des pauvres. Moi, j'étais dans un milieu vraiment populaire, ouais. J'étais en banlieue dans le 93 et tout, mais il y avait des gens tellement pauvres là où j'étais. Et moi, comme il y avait mon père qui ramenait un peu de sous, même s'ils étaient séparés, bon, il filait une pension, qu'en fait, j'étais le plus riche des pauvres, moi. Mais quand j'y repense maintenant, je me dis, ce qui me rendait riche, c'est que j'avais l'équivalent de 50 centimes d'euros ou 1 euro pour le goûter.
Oui.
Tu vois, j'avais pas un bout de pain avec un carré de chocolat. Moi, j'avais le droit d'aller au distributeur mettre une pièce en sortant du collège pour prendre un goûter. Et j'en donnais à tout le monde, parce que tout le monde disait « Waouh frérot, t'as une pièce de 10 francs, t'as 10 francs, tous les jours t'as 10 francs !» Et donc moi j'étais saucé, enfin pas saucé, mais j'étais content, parce qu'apparemment j'étais le plus riche des pauvres.
Oui, on est toujours le... De toute façon...
Bah non, dans mon...
On est toujours le pauvre de quelqu'un ou le riche de quelqu'un.
Oui, mais c'est-à-dire que dans ma classe, a priori, j'étais dans les mieux lotis,
ouais.
Parce que j'avais 10 francs.
Et ça te change tout de suite le paradigme, en fait. C'est hyper intéressant. Parce que, de ce fait-là, t'es pas... Tu vois, moi, par exemple, j'étais dans un... Je parle de moi, mais j'étais dans une classe où j'avais des copains qui avaient tous des jeans Liberto et des trucs chevignons, tu vois. Ouais. Et moi, je m'habillais en kiabi. Donc, d'un coup, d'un seul...
Toi, tu te sentais
moi, j'étais pauvre.
Le plus pauvre.
Voilà. Ça ouais, change. Et ça change complètement.
Ouais. C'est, je me suis rendu compte qu'on était pauvres très tard, en fait.
Et quand tu...
Enfin, pauvre. Enfin, si pauvre, selon mes critères actuels.
Oui.
Enfin, pauvre. Parce qu'en fait, ça sonne toujours bizarre, pauvre. En fait, c'est pas pauvre. J'aime pas le mot pauvre.
Ah, t'aimes pas le mot pauvre?
Non.
Ah, parce que tu veux, mais...
Classe populaire.
Financièrement parlant, tu veux dire?
Oui, non, mais c'est ça, c'est parce qu'en fait, quand on dit les pauvres, ils ne sont définis que par l'argent qu'ils n'ont pas.
Ok.
En fait, ça m'embête, le terme pauvre, parce qu'en gros, on définit une personne par un truc qu'elle ne possède pas, et pas par tout ce qu'elle a autrement. C'est pour ça que souvent, on va plutôt, tu vois, dans un discours, par exemple, politique, ou on va plutôt dire les classes populaires, parce qu'en fait, ça sous-entend qu'il y a toute une culture et qu'il y a tout un... Voilà. Donc, il faut que j'arrête de dire pauvre. J'étais pauvre au sens, pour moi, en tant qu'enfant, de l'image que tu as d'un pauvre, je ne me sentais pas pauvre.
Oui, oui, oui.
Mais moi, parle... là, maintenant, en tant que moi-même...
On parle d'argent ici, tu vois. Donc ouais. Après, de toute façon, vu où t'es arrivé, on en reparlera, on s'imagine bien que tes parents avaient plein d'autres sources que juste l'argent, et notamment ta mère.
Donc je n'étais pas pauvre.
Merci, merci.
C'était une classe populaire.
Tout à fait. Mais je voulais te demander, et de ce fait-là, quand t'allais chez ton père, est-ce que tu la sentais quand t'étais môme, tu vois, cette différence de... Comment ça se passait pour toi, tu vois, cette différence de revenus ou cette différence d'argent, tu l'as ressentais quand t'étais gamin?
Ouais, ouais, justement, c'est-à-dire que moi, mon père, du coup, je le voyais comme... en fait, c'était un profil tellement différent que c'était assez frappant, en fait. C'est que lui, tout reposait sur l'argent et sur le fait qu'on sache qu'il a de l'argent. Je pense même pas qu'il était si riche que ça, comme quoi c'est encore toujours une question de...
D'échelle.
Mais en fait... C'est un peu. En fait, je voyais bien que lui, à ma place dans le collège, être le plus riche des pauvres, c'était important. S'il avait été à ma place dans le collège, il aurait dit : vous avez vu, les gars ? J'ai 10 francs là. Qui fait quoi là ? Qui applaudit le gars qui a 10 francs là ? Je les ai, les 10 francs. Tu vois. Et en fait, je me suis un peu construit en opposition à ce truc-là. Lui, je pense qu'il a ce truc-là parce que c'est un immigré italien qui est arrivé avec que dalle, il est arrivé en slip et qui s'est fait tout seul. Et que pour lui, du coup, c'est une espèce de revanche qu'il a pris sur la vie. Donc du coup, c'est pas un jugement que j'ai sur lui, c'est juste ça me correspond pas du tout. En fait, c'est une attitude qui me convient pas. Mais je pense que lui, il a ce truc, cette espèce de revanche permanente à prendre où il veut montrer aux gens qu'il a des sous. Voilà. Et donc du coup, quand j'allais chez mon père, je voyais une différence, quoi, parce que il était le gars qui veut absolument. En fait, il est très généreux, mais il veut que ça se sache.
Oui, c'est pas que généreux,
ouais. Mais ça reste généreux.
Oui.
Donc en fait, c'est intéressant parce que tu vois, ma mère était très généreuse et faut pas que ça se sache. Mon père était généreux et fallait que ça se sache. Mais les deux étaient généreux pour des raisons différentes. Mais au final, sa générosité à mon père, ça reste une générosité, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai ce truc où je me dis, tu sais, quand on dit ouais, c'est ça, ouais, elle va faire des puits en Afrique, mais c'est pour se faire mousser. J'ai tendance plutôt à dire ouais, mais en attendant, elle a fait un puits en Afrique. Alors que toi, t'es sur ton cul à dire ouais, elle se la raconte. Alors ça, on va le savoir, hein, qu'elle allait creuser un puits en Afrique. Elle en parle tous les jours. Je fais, écoute, si ça lui fait plaisir que tout le monde le sache, en attendant, elle a quand même fait un puits en Afrique. Donc oui, dans l'idéal, il faut Mère Teresa. Et encore, Mère Teresa, elle est connue. Ça se trouve, elle était dosée d'être connue. Je sais pas.
On sait pas.
Mais elle a quand même fait quelque chose.
Ouais, je comprends. Et toi, comment tu t'es construit par rapport à ça? Donc toi, t'étais plutôt du côté de... Enfin, tu t'es construit en opposition, tu disais, par rapport au côté un peu show-off de ton père, c'est ça?
Ouais. Bah en fait, c'est juste, j'en ai pas ressenti le besoin, quoi.
Ok.
Je ressens pas le besoin. C'est pour ça que faut vraiment qu'à un moment je change de veste là, parce que depuis que tu me connais, j'ai cette veste. C'est genre, j'ai pas trop. Je suis pas très show off, quoi. Et c'est pas par peur qu'on m'en veuille d'être riche ni rien. C'est juste que je vois pas trop le point. En fait, ça m'alimente pas. Je comprends, hein, je vois des gens autour de moi, c'est important pour eux qu'on sache qu'ils ont réussi, qu'on sache qu'ils ont la belle... Mais j'ai pas trop ce truc-là, quoi.
Ok. Comment tu t'es... En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de parler avec toi aussi de cette bascule, tu vois. À un moment donné, t'étais... Donc t'as bossé dans un cabinet, c'est ça
Oui, j'ai fait. Bah oui, j'étais dans un bureau.
T'étais dans un bureau.
Pistonné. De mon beau-frère qui m'avait pistonné chez des notaires.
T'étais parti pour
avoir. C'était intéressant d'ailleurs, parce que du coup, pour le coup, en termes d'argent, les notaires, on est vraiment sur, je pense, des gens qui de père en fils, en père en fils en fille, se transmettent de génération en génération une espèce de statut social de comment dire, des espèces d'entremetteurs d'argent, de gens qui connaissent, qui comprennent l'argent et qui le font passer de main en main. Enfin, tu vois, ils ont vraiment une vision. Et donc, du coup, d'être au contact de ces gens-là, je te dis, ah ouais, waouh, c'est très. Alors, pour le coup, là, c'est très à droite pour de vrai, sans la blague. Et du coup, c'était intéressant, tu vois, de parler avec ces gens et de dire, ah ouais, je crois que c'est une des fois où j'étais le plus confronté à des personnes qui avaient rien à voir avec moi, depuis qu'ils sont nés. Tu vois, c'est un mec de mon âge de l'époque, il était déjà clerc de notaire parce que papa l'avait mis chez machin en prenant le fils de machin en échange. Tu vois, ils s'échangent un peu leurs enfants. Et moi, j'étais là, je regardais, je voyais leur vision de la vie, qui était beaucoup influencée par leur culture, etc. Par là où ils avaient grandi, en fait, leur milieu. Et c'était vraiment des gens complètement différents, en fait. Et ça, c'est un côté. Tu comprends un peu les Républicains en France, UMP et LR.
Ouais.
Il y a un peu ce truc-là, en fait. Tu dis, c'est un peu la droite. La France est une belle nation.
La droite gaulliste, quoi, c'est ça?
Ouais, un peu, sauf que ça a été un peu dévoyé. J'ai l'impression que gaulliste ne peut plus rien dire maintenant, mais genre le côté.
La droite républicaine.
Ouais, vraiment, la droite, on est content d'être la France, on est un peu chauvin. La France d'abord, tu vois, il y a un peu un truc sans être ultra raciste, tu vois, mais plus. Ouais,
patriote.
C'est ouais, un peu patriote, un peu chauvin, un peu capitaliste, enfin beaucoup capitaliste, mais pas forcément dans la finance, tu vois. Genre la finance, ils sont un peu à l'ancienne, quoi. Ils font des cousinades où ils sont sur des bateaux, mais enfin tu vois, il y a un truc, c'est intéressant comme milieu.
Puis c'est moins le capitaliste, je trouve, que l'idée de patrimoine.
C'est ça, il y a un truc, ouais, c'est ça.
Le patrimoine.
Le patrimoine, tu vois, c'est vraiment avec. Papa qui te donne des sous pour investir dans l'immobilier, pour, tu vois, où il va vraiment te dire t'es complètement con, achète pas une bagnole, ça perd en cote, d'abord t'investis dans l'immobilier, tu vois. Donc il y a un peu ce truc, c'était intéressant d'être au contact de ces gens parce que c'était un milieu qui était vraiment complètement différent du mien et de celui de ma mère et celui de mon père, tu vois. On n'était pas, mon père, ça va être toute proportion gardée et sans tomber dans toutes les malversations, un profil à la Tapie, tu vois, le profil, hein, tu vois, oui. Le truc que les gens voient quand ils voient Tapie, ceux qui aiment bien Tapie, ils disent ouais, il s'est fait tout seul, c'était un gamin de la rue et il a réussi à monter des entreprises, voilà. Mon père, c'est plus ce profil-là, ma mère, c'est vraiment Arlette Laguiller, tu vois. C'est vraiment, bon, voilà, c'est prolo, un jour, prolo toujours, avec même un peu la détestation de ce qu'est l'argent et de ce que ça représente. Et là, c'était encore une autre catégorie, je trouve, qui était vraiment, où limite, t'arrives pas trop à leur en vouloir, parce que tu te dis, mais il est né là-dedans, lui, en fait. Il est né là-dedans, il est jamais sorti, c'est pas ce que c'est. Mon milieu, il n'y est jamais allé, mais il n'aimait pas aller. Au mieux, il a vu la haine.
Ouais.
Tu vois, mais il n'a aucune idée de quoi on parle. Et donc, vu que j'étais assez jeune, c'était quand même frappant de voir un monde aussi différent et de voir à quel point il est vraiment déconnecté, en fait. De dire, ah ouais, il y a vraiment des deux mondes. Là, c'est vraiment totalement imperméable, quoi.
Et c'est marrant. Enfin, oui, bon, on va en reparler, mais ça m'intéresse de voir avec toi, en fait, le moment où tu gagnes de l'argent avec Bref. Enfin, tu vois, je crois qu'il y a un moment de bascule dans ta vie.
Ouais.
Ou avant, peut-être je me trompe, hein, tu vois, mais j'ai l'impression qu'avant, en fait, je vais caricaturer, mais en gros, c'est un hobby, tu vois, de faire des blagues. Alors, peut-être avant Bref, quand même.
Ouais.
Mais en gros, c'est un hobby de faire des blagues. Et qu'en fait, à un moment donné, quand Bref arrive, t'as l'ouverture de tas de portes, en fait, qui étaient beaucoup plus compliquées à ouvrir avant, et qui te permettent aussi de pouvoir, je crois, gagner de l'argent assez rapidement, quoi. Je caricature un peu.
Non, je vois ce que tu veux dire, mais c'est quoi la question?
Ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'aspect de bascule, c'est-à-dire comment tu fais pour te retrouver du jour au lendemain avec avec de l'argent sur ton compte comme ça qui tombe, alors que jusque-là, tu gagnais pas vraiment ta vie avec tes blagues, quoi. Tu gagnais peut-être un peu ta vie avec tes blagues déjà, parce que
ouais,
tu bossais avec
ça,
Shirley.
C'est pour ça que en fait, ça s'est quand même fait assez
graduellement.
Ça s'est fait graduellement, mais effectivement, il y a un moment où il y a une bascule, mais qui est un peu plus progressive que ce qu'on imagine, parce qu'en fait, Bref, on l'a quand même fait en mettant tout dans le projet et en arrêtant au bout d'une saison. Donc, je suis pas en train de dire que j'ai pas gagné de l'argent avec Bref, mais c'est juste que ça s'est fait progressivement avec le succès de Bref. C'est-à-dire entre la première partie, parce que ça s'est fait en deux parties, de la première saison et la deuxième saison, là il y a eu une bascule. En fait, t'as un système de droits d'auteur, mais qui tombe que tous les six mois et qui met du temps à, se répercuter. Puis après, t'as pas mal de... Par exemple, on a fait très peu de produits dérivés. En gros, si on avait fait une saison 2, je pense que là, il y aurait eu un badaboom. C'est-à-dire que si, à la fin de l'année, on avait dit à Canal, à l'époque, « Ok, on fait une saison 2, maintenant, ça sera temps, parce que c'est un succès. » Je pense que là, on aurait vraiment... Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Mais vous êtes cons ou quoi ? C'est à la saison 2 qu'on se fait vraiment, vraiment de la maille. » Nous, on ne voyait pas le truc, on ne voulait pas le faire. Et donc, du coup... Et pareil, les produits dérivés, on en a fait très peu. Et ceux qu'on a fait nous ont pris beaucoup de temps. Tu vois, quand on fait le bouquin bref, moi je suis dessus tous les jours.
Bref est génial, mais vraiment, vous avez travaillé dessus.
Ouais, on a beaucoup, beaucoup travaillé dessus. Et donc, en gros, ça a fait que malgré tout, c'est-à-dire que c'est devenu des sommes beaucoup plus grandes, mais qui sont arrivées petit à petit. Et c'est pas genre du jour au lendemain, voici ton million. Tu vois, je sais même pas d'ailleurs, je pense même pas que j'ai un million. C'est-à-dire que ça s'est fait vraiment par petites étapes. Et donc du coup c'est dur pour moi de voir, tu sais, c'est pas une bascule bam, genre du jour au lendemain il y a un gars, il est arrivé avec une mallette pleine de fric et il me l'a donné. Mais par contre oui, je suis beaucoup plus tranquille à ce moment là c'est à dire que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est comment je vais payer mon loyer, c'est bon, ça c'est bon, c'est réglé, comment je vais payer mon loyer. Donc, et c'est ce truc là qui est important, je pense, plus que la somme exacte. Je pense que la bascule, elle est importante sur le loyer. C'est le moment où tu te dis... et en fait, il y a pas mal d'auteurs, d'humoristes, de gens dans ce type de métier qui le disent. Ils disent, en fait, ce qui se passe, c'est que quoi qu'il arrive toute ta vie, ce que tu fais, c'est que tu prends combien ça te coûte un mois dans ta vie. Tu prends la somme que tu as sur ton compte, tu divises, et tu sais que tu as ce temps-là devant toi. Et la course, c'est comme la course de... ton curseur YouTube contre le téléchargement de YouTube, tu sais, quand tu vois le rouge qui court après le gris, ton but c'est que le rouge il dépasse jamais le gris, sinon t'es en buffering et tu tombes. Voilà. Tu dis merde, je peux plus avancer, ma vie vient de faire pause parce que j'ai téléchargé moins d'argent que la vitesse à laquelle je le regarde. Et donc du coup il y a un peu ce truc là qui se met en place, qui devient une façon différente d'aborder l'argent par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, avoir un salaire. C'est que tout d'un coup tu dis ma vie coûte tant, je prends la somme que j'ai sur mon compte, je divise, si je touche plus rien je tiens 6 mois ou je tiens 1 an. Donc pendant ces 6 mois et ces 1 an il faut que je retravaille pour repousser l'échéance, et ainsi de suite, tu vois. Et comme malgré tout ton niveau de vie il augmente puisque t'as des sous, bah, tu t'as une phase où t'attends de voir jusqu'où va monter ton niveau de vie. Parce que moi j'en ai vu des gens quand ils commencent à gagner de l'argent, en fait tout d'un coup bah, t'as de l'espace pour voir c'est quoi ton vrai niveau de vie. Si là t'as argent infini, c'est quoi ton niveau de vie au quotidien? Est-ce que tu veux acheter des Rolls tous les mois, prendre des jets, et donc ton niveau de vie il est très haut, quel est ton niveau de vie? Donc moi j'ai eu la réponse à quel est mon niveau de vie, qui tenait assez bien avec l'argent que j'avais, en me disant ok, j'ai toujours, quand ça va très bien j'ai 3 ans devant moi, quand ça va un peu moins bien, genre période Covid etc, j'ai 1 an et demi devant moi, ok c'est cool. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à ta question sur la bascule, parce que c'est pas vraiment une bascule en fait.
Ouais, je comprends. Mais t'as quand même un moment donné où, je sais pas en fait comment ça se caractérise, t'as pas un moment donné où tu te dis ok c'est bon, j'y suis arrivé au moins financièrement, quoi, tu vois. Je sais pas si... Si tu touches la... Non mais tu vois, si tu touches tes droits d'auteur, ta première fiche de droits d'auteur, je sais pas combien tu touches, tu vois, et que tu te dis oh mon Dieu, là c'est cool. Enfin, tu vois, je voudrais essayer de creuser avec toi ce moment de bascule justement. En fait, où tu vois, où tu te dis, ok, c'est good pour moi. Mais peut-être que tu l'as pas vécu comme ça en fait.
Ouais, mais en fait, c'est pas vraiment que tu dis que c'est good pour toi. C'est en fait moi ce que je me suis dit, mais cette somme est folle. C'est plus ça en fait.
Combien par exemple?
Mais je sais pas. Et en fait, moi, j'ai un vrai problème, c'est que non, mais pour de vrai. Hein.
Les gens vont être frustrés, je crois.
Je suis désolé, mais ça fait.
Mais je le sais parce qu'on se connaît, toi et moi.
On me pose cette question tout le temps. Et en fait, moi, dans mon monde, je devrais pouvoir dire, parce qu'en fait, je pense même que c'est très intéressant de pouvoir dire. Je pense qu'il y a des gens qui imaginent beaucoup plus, des gens qui imaginent moins. Il y a des gens pour qui ça va être une insulte ce que je touche. D'autres qui vont dire, mais tu t'es fait carotte, frérot. Tu touches 100 fois moins que ce qu'on estime pour Vald, alors que c'est juste un rappeur, tu vois. Donc, mon vrai problème, c'est que par amitié avec les gens avec qui je travaille, je ne dis pas combien je gagne, parce que je ne veux pas que les gens puissent se dire, tu vois, typiquement, tu peux te dire, ok, c'est sûr que, par exemple, que Kian gagne plus que Navo. c'est à peu près sûr, il a plus de projets, il est plus en avant. Donc, quand Navo va me dire combien il gagne, je sais que ça, c'est le plancher minimum. Si j'estime que Kian gagne deux fois plus, tu vois. Et en gros, c'est une vraie discussion que j'ai eue avec les gens qui m'entourent, puisque je travaille avec des gens et que ces gens sont connus, qui est, bah, nous, on veut pas dire combien on gagne. Donc, si tu dis combien tu gagnes, les gens vont deviner combien on gagne.
Ça en dit long aussi sur le rapport qu'on a à l'argent, tu vois, aujourd'hui. Et pour moi, ça entretient un peu le fantasme, justement.
Bah, disons que comme moi, ça me dérangerait pas d'être la preuve de ce que j'avance, qui est que ce monde n'a aucun sens et que je devrais pas toucher autant. Ouais. Je devrais pas toucher fois quoi que ce soit de ce que touche un éboueur, par exemple. Mmh. Et j'aimerais bien que ce soit un sujet de société, de dire, mais attendez, les gars, sauf ceux qui le font parce qu'ils ont vraiment à cœur cette mission-là, ils doivent exister. C'est pas un métier duquel je dis du mal. Je dis qu'il y a des métiers pénibles que les gens ne font que parce qu'ils peuvent pas en faire un autre. Mmh. Et ces métiers-là devraient être les plus valorisés, puisque personne veut les faire. C'est toute la question qu'il y a autour du revenu de base.
Bien sûr.
C'est-à-dire, mais si demain on met le revenu de base, il y a plus personne qui voudra sortir les poubelles. Et tu fais, mais donc t'es un gros bâtard. T'as donc conscience que la personne qui sort les poubelles, elle veut pas le faire. Elle le fait que parce que c'est la seule chose qu'elle a pour toucher de l'argent. Et toi, ça te va comme système. Moi, ça me va pas. Donc, tant mieux, parce que le jour où la personne n'est plus obligée et que toi, tu voudras que tes poubelles, elles soient pas chez toi, tu seras d'accord pour que sortir les poubelles, ça soit payé 20 000 euros par mois. Et si le jour où c'est payé 20 000 euros par mois, tu dis, putain, c'est bien payé pour sortir les poubelles, eh ben, sors les poubelles et gagne 20 000 euros par mois. Mais arrête d'exploiter les gens mécaniquement par un système. Ou au moins, quand on te propose de changer ce système, réfléchis à ce que t'es d'accord avec. Parce que là, ce que tu dis, c'est que t'es d'accord avec. Tout ça pour dire que, du coup, moi, ça ne me dérangerait pas d'être la preuve vivante de ce que j'avance, mais ça dérange les autres gens autour de moi parce qu'ils n'avancent pas forcément les mêmes choses.
Et quand vous en parlez, c'est quoi le débat, en fait ? C'est plutôt, il vaut mieux pas trop parler des sommes à quel point ? Parce que c'est délirant ou ça te coupe du public, c'est ça ?
Je sais pas trop.
Ok.
Je sais pas trop pourquoi, je respecte, et en fait, c'est surtout... Les autres le font pas.
Alors justement, donc, j'allais t'en parler. Moi, j'ai vu Boon Aimin sur scène. Ouais. Je sais pas si t'as vu ce qu'il fait là dernièrement, mais lui, il parle des impôts qu'il a payés.
Ouais.
Et donc, ça donne pas son revenu, mais tu peux. Donc, il raconte, il dit ouvertement sur scène que d'ailleurs, j'espère l'avoir bientôt dans mon podcast, on en parlera. Mais tu vois, il dit, moi, j'ai payé 164 000 euros d'impôts cette année, c'est énorme. Il dit, mais ça veut dire que j'ai gagné beaucoup d'argent. Donc, tu vois, il est un peu dans ce truc-là. Mais il dit, mais moi, au nom de ça, j'aimerais bien pouvoir dire un petit peu, enfin, tu vois, genre les infirmiers, l'hôpital, enfin, j'aimerais bien avoir mon mot à dire parce qu'en gros, je suis investisseur dans le truc. Quoi,
oui, c'est ça. Il a ce raisonnement de dire j'ai mis de l'argent, donc j'aime pas que mon argent. En fait, c'est toujours délicat parce que, en gros, la personne qui met plus d'argent, elle voudrait avoir son mot à dire. Et donc, voilà, je rentre dans un truc un peu relou. Mais en gros, elle a son mot à dire puisqu'elle a une voix. Mais donc, ce que sous-entend cette personne, c'est qu'elle mériterait d'avoir plus de voix parce qu'elle a mis plus d'argent. Mais bon courage si on fait ça.
Bah oui, ça marche jamais.
Parce que tu vas voir que politiquement, tu vas pas t'y retrouver, mon pote.
Bah oui.
Mais donc, souvent, les gens, Boone, que j'imagine plutôt humaniste, je le situe à gauche, qui dit ça, il a raison, puisqu'il est dans un gouvernement de droite. Mais donc, si c'est parce que tu as mis plus d'argent que tu veux avoir ton mot à dire, sache qu'il y a des gens qui payent des millions d'euros d'impôts.
Bien sûr.
Et qui n'ont qu'une voix aussi quand ils votent. Et c'est tant mieux. Parce que si on leur donnait 2 millions de voix et que toi, t'en as que 130 000 ou 160 000, on perdrait encore plus, en fait.
Ouais, je suis d'accord.
Mais oui, après, je comprends ce truc de quand tu payes des impôts, c'est encore plus énervant que politiquement, ce soit pas ce que tu veux. Parce que t'as vraiment l'impression de donner... Mais bon, c'est l'esprit américain, quoi. Les Américains, ils sont plutôt dans une tendance où ils disent « Venez, on paye le moins d'impôts possible et les milliardaires, ils donnent l'argent à ce qu'ils veulent. » Et quand on fait ça, bah, les gens, ils préfèrent réparer le toit de Notre-Dame que de sortir les gens de la rue. Donc tu dis, bon, c'est pas idéal.
Tu m'as perdu.
Non, tu vois pas ce que je veux dire ?
Si, si, bien sûr. Okay. Si, si, c'est juste... j'essaie de reboucler avec le sujet. Ok, donc...
Donc oui, désolé, je peux pas dire combien je gagne.
Oui.
Si un jour je fais un projet tout seul et qui me rapporte de l'argent...
Tu montes. Voilà. Un spectacle.
Par exemple, je le dirais avec plaisir. Je pense que ça me ferait plaisir. Là, le problème, c'est que j'emmène des gens avec moi qui n'ont rien demandé.
Bien sûr.
Tu vois.
J'aimerais en fait que qu'on parle aussi de... Et là, je ne sais pas si tu rentres dans ta vie perso, tu vas me le dire, mais tu as placé ta maman dans un EHPAD.
Ouais.
Si tu veux, on coupera. Tu me diras. Tu m'as dit un truc génial, c'est que tu m'en as parlé, en fait. Donc, ta maman est dans un EHPAD. Tu la finances? Tu finances cet EHPAD?
Ouais.
Je ne sais pas si tu veux en parler publiquement.
Si, si, ça dépend ce que tu vas me demander.
Mais en fait... Tu m'as dit un truc génial. Déjà, tu m'as dit le prix. Je sais pas si tu as envie de dire le prix, mais c'est beaucoup d'argent, tu vois.
Ouais. C'est de voir où tu vas.
Oui. Ouais.
Parce que là, maintenant, tu m'as mis le doute. T'as dit, on peut couper, hein. Je suis là, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Il m'a jamais dit on peut couper, Fab.
Non, parce qu'en fait, c'est perso. C'est sur ta vie perso, tu vois. Donc, j'ai pas envie de dévoiler un truc qu'on s'est raconté dans le cadre, dans un cadre perso, tu vois.
Oui, d'accord, ok.
Tu m'as dit deux trucs.
Respecte le off. T'es un vrai bon journaliste.
C'est important. Ceci dit, ça m'a donné des billes quand même, donc je me permets d'en profiter. Tu m'as dit deux trucs. Tu m'as dit, ok, donc, c'est quand même beaucoup d'argent. Et je me suis dit, va pas falloir que j'arrête de faire des blagues. T'as fait une blague en mode, putain, ça me met quand même une forme de pression par rapport au travail que je dois fournir, quoi. Et tu m'as dit un autre truc. Tu m'as dit, je trouve que c'est génial parce qu'en fait, je lui rends l'argent qu'elle me doit, entre guillemets, au sens que tu lui dois, pardon. Le plus intéressant. Que tu lui dois. Au sens où c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui, quoi.
Ouais. Oui, disons que de toutes les personnes sur qui je peux mettre de... Tu sais, où je me dis, allez, il faut dépenser de l'argent, j'y vais, je le prends, c'est moi qui paye. S'il y a bien une personne, la personne où ça va le moins me déranger, c'est ma mère, et après, je pense, c'est Kian. Parce que tu dis, techniquement, là, c'est vraiment les personnes qui ont le plus changé ma vie. Je pense que je suis là où je suis grâce à elles. Donc, je le vois pas du tout comme un... C'est tout à fait normal, mais limite là on est dans les classiques rap mettre la maman à l'abri, quoi. C'est à dire que tu dis oui, sauf que pour moi mettre ma daronne à l'abri là c'était la mettre dans un endroit où elle peut être suivie médicalement.
Ah, parce que tu le vois comme ça, comme la mettre à l'abri, quoi.
Ah bah oui, c'est quoi sinon?
Non, c'est vrai, j'avais pas...
Tu le vois comment, toi?
Non, que tu lui as amené
En fait, le truc, c'est que
situation et des
en fait, soins, ça coûte cher parce que.
Tu veux dire combien ça coûte?
Le système. Non, mais je peux. Attends, c'est compliqué.
Ouais, je sais.
Je peux dire que dans le. J'essaie de faire attention aux gens qui vont faire des maths. Je peux dire.
Des gens qui vont faire des maths?
Oui.
Ok.
Je peux dire que. Je peux dire que ça représente un tiers de ce que je gagne.
Ok.
Grosso modo. Un peu plus, peut-être. Voilà. C'est pas la moitié, mais c'est pas loin, c'est entre un tiers et la moitié de ce que je gagne. Donc tout d'un coup, ça veut dire que par rapport à ce que tu gagnes dans la vie, t'as la... Allez, disons le tiers. T'as le tiers qui est consacré à autre chose que t'avais pas du tout prévu dans ta vie. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y avait ce truc de waouh, faut tenir, tu vois. Après, si je tiens pas, je tiens pas. Mais en fait, ça vient du fait que je voulais la mettre dans un endroit chambé. C'est aussi ça le truc. C'est que il y a des endroits qui sont complètement qui auraient été complètement gratuits, mais je me suis dit, mais j'ai pas envie de la mettre là, quoi. C'est pas là que j'ai envie qu'elle soit. J'ai pas envie qu'elle soit loin de moi aussi. Et donc du coup, bah, le monde étant ce qu'il est, et c'est malheureux, parce que ma grand-mère, par exemple, c'est ma mère qui s'en occupait. Elle était dans des endroits beaucoup moins rigolos. Elle est vraiment dans l'endroit cool, quoi, où t'as tout pour aller mieux dans ta vie. Et plus je vois ça, plus je me dis, mais oui, c'est pour ça que les riches, ils vivent jusqu'à 30 000 ans, en fait. C'est qu'en fait, t'es là, t'as un kiné, t'as un machin, t'as un truc, t'as des gens qui sont formés, qui s'occupent de toi, ils sont 15 000 par personne, et tu fais, ah ouais, c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est très grave. Parce qu'en fait, tu sais, on parle souvent des hôpitaux privés, des cliniques privées par rapport aux hôpitaux, etc. Mais en fait, ça se passe pareil pour les EHPAD. C'est-à-dire que t'as des EHPAD où il y a peu de moyens, et c'est ceux-là où on va mettre les gens qui peuvent pas payer, et puis t'as la version privée, quoi. Donc là, c'est vraiment la version privée. Et comme c'est ma mère, je me suis dit, bah oui, je vais la mettre là. Et donc, est-ce que j'ai répondu à tes questions?
Oui, et puis ça te colle une forme de... Ça te colle aussi une forme de pression, tu trouves?
Je sais pas si c'est une pression.
Non, tu sais, je parlais par rapport notamment, et je trouve ça intéressant parce que t'as un peu ce truc de... Moi, je suis peace, tu vois. J'ai pas envie non plus de forcer trop la réussite ou.
Oui, je suis pas un gros bosseur, quoi. T'as fait une longue périphrase pour dire t'es un peu une feignasse.
Et tu le revendiques, tu vois. Ouais. Et je me demandais en fait à quel point ça allait t'amener dans un jeu potentiel où tu chercherais à aller compenser cet argent que tu donnes à ta mère.
Pour l'instant, ça tient.
Ok.
Mais oui, en fait.
Et d'aller dans un jeu.
Je reste quand même très privilégié, c'est-à-dire que techniquement, c'est pas non plus. Faut que j'aille à la mine, quoi. Allez, j'accepte cette pub. Voilà. Et ça paye. Donc, c'est pas non plus. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin. Je pense qu'en fait, c'est surtout le fait que ce soit. En fait, c'est assez récent et c'est pendant la période Covid qui est vraiment particulière où du jour au lendemain, on peut te dire toutes les salles sont fermées. Moi, ce que je touche, c'est les droits d'auteur sur les billets qui sont vendus dans les salles. Donc, à chaque fois qu'ils disent on ferme les salles, moi, tous mes revenus s'arrêtent en fait. Et le pire, c'est que c'est pas mes revenus de maintenant.
C'est tes revenus dedans.
C'est mes revenus dedans 6 mois, le temps ou 3 mois, ou ça dépend des. En fait, c'est chaque salle de théâtre qui va aller faire la décla, qui va le dire à la SACD qui va retrouver mon compte, qui va me donner l'argent à telle échéance. Et donc, c'est très dur à calculer, mais tu peux faire le calcul en disant, OK, dans le temps à venir, là, alors que je suis en train de payer mes impôts pour l'année d'avant qui se passait bien,
ouais,
et que je touche plus d'argent. Tu vois, il y a vraiment un truc où c'est des calculs un peu complexes, et je pense que c'est ça aussi qui faisait un peu peur. C'est de dire, ah merde, c'est au pire moment.
Et tu t'es entouré de gens qui étaient spécialistes, parce que tu disais que t'étais pas très très bon dans tout le rap.
Non. En fait, là, j'ai enfin fait un truc, c'est que j'ai des gens, et je les embrasse, qui s'occupent de mes affaires courantes, comme on dit. Et donc, en gros, ils essayent de me mettre à jour sur des trucs, des machins. Je dis, j'ai jamais répondu à ce truc-là, j'ai 3000 lettres recommandées. Et ils sont là, bon, va falloir payer ça, ça et ça. Par contre, en fouillant dans ton courrier des 5 dernières années, on a trouvé tel chèque que t'as jamais encaissé. Tu vois, donc ça s'équilibre un peu. C'est-à-dire que mon bordel, il me nuit et en même temps, il m'arrange. Enfin, tu vois, le fait de régler le bordel, c'était un peu des deux, quoi.
Mais il y a une forme de phobie administrative chez toi ou...
Ouais, complètement. Ouais. C'est relou parce que, pareil, le terme a été dévoyé par quelqu'un qui est censé travailler pour nous. Tu vois, c'est un fonctionnaire qui est censé bosser pour nous.
Bien sûr.
Et qui a justifié de faire de la merde.
J'ai trouvé ça cool qu'il en parle. Enfin, tu vois, après, je suis d'accord avec toi sur l'aspect
oui, mais pour moi,
politiquement
c'est...
très... Mais en fait, c'était sympa. Enfin, moi, j'ai trouvé...
tu dis au gars, ouais, le mec, il est maître nageur, tu dis, putain, t'as sauvé personne. Il dit, ouais, mais j'ai peur de l'eau. Tu dis, frérot, si t'as peur de l'eau, moi, je remets pas en question, ça se trouve, je pense que c'est faux, mais même si c'est vrai, si t'as une phobie administrative, travail va pas là où t'es, tu vois.
Oui.
Soit pas politique, soit pas un homme politique, ou au moins gère-le. Tu vois?
Oui, je suis d'accord.
C'est-à-dire que si moi je peux le gérer avec des gens, je peux prendre des gens qui s'en occupent.
Mais t'as mis 5 ans.
Oui.
C'est ce que je veux te dire.
Je suis pas un homme politique.
Non, je sais. Ce que je veux dire, c'est.
Clairement, t'es au courant que t'es en train de. Même pour lui-même, hein, même si je suis son conseiller en. Si c'était vrai, je lui dis, bah mec, c'est débile.
Ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il y a une honte aussi de la part des gens qui ont une forme de phobie administrative de pas gérer leurs papiers parce que c'est un truc que tu devrais faire en tant qu'adulte, tu vois, et qu'on t'apprend jamais à faire.
Moi, j'ai pas honte, je trouve que c'est de la merde.
Okay.
Et en fait, jusqu'à maintenant, c'était comme un luxe. Je me payais le luxe de temps en temps trouver, tu vois, d'avoir une lettre recommandée, dire, ok, vas-y, celle-là, je l'ouvre, et dire, oh putain, je dois ça, j'ai été majoré 2 fois, ok, vas-y, je paye. C'est le luxe de ma flemme, quoi.
Okay.
Mais dans l'ensemble, maintenant, j'ai pris quelqu'un. Voilà, justement parce qu'il y a eu des événements avec ma maman et des trucs comme ça où je dis, attends, faut vraiment être un peu plus carré là. Et donc j'ai des gens très bien qui sont carrés pour moi et ça me fait bien plaisir.
Okay.
En fait, moi j'ai mis du temps parce que ces personnes-là, elles disent, oui, on peut t'aider, mais il faut que tu nous donnes les papiers. Et en fait, c'est cette étape-là qui a pris longtemps. Je pense que pendant 2 ans, elles disaient, si tu veux, on y va, mais il faut qu'on fasse un jour, on vient chez toi, on prend tous tes papiers, tu les retrouves. Tu trouves tous tes accès. Et je voulais déjà pas faire ce truc-là. J'avais déjà la phobie administrative de gérer ma phobie administrative, en fait.
Putain. Ouais, je crois aussi que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens partent. Enfin, tu vois, si les gens qui n'ont pas accès à tes sous potentiels, tu vois, toi, tu dis, bah, ça a été majoré, moi, je peux payer, etc., ça fait rentrer dans des spirales de ouf, quoi.
Mais je me mettais dans la merde avant. Parce que c'était déjà le cas quand j'avais pas d'argent.
Ah, ouais, ok.
Donc, je me mettais quand même beaucoup dans la merde. J'étais là, ah, putain. En fait, c'est juste que maintenant, c'est moins grave parce que j'ai des sous. Avant, c'était très relou, quoi. De dire, putain, c'est vrai que ça commence vraiment à me peser de continuer de payer l'assurance de l'appart dont j'ai déménagé il y a un an, juste parce que j'ai la flemme. En fait, c'est un vrai problème, quoi. C'est genre, parce que t'es dans un déni, en fait. T'es dans une fuite constante. Quand on t'en parle, tu fais, ouais, demain.
Tête dans le seau. Hop. Ouais. Ça m'intéresse. Il y a un truc qui m'intéresse aussi, et je crois que ça intéresse beaucoup de gens, c'est la façon dont t'es rémunéré quand tu fais des blagues avec des auteurs, avec des humoristes, tu vois.
Ouais.
Donc là, t'es co-auteur ou t'es auteur, je sais pas. Comment ça marche? Est-ce que t'es rémunéré X centimes d'euros la blague? Tu vois ce que je veux dire ou pas?
En fait, déjà, c'est.
Est-ce que tu le sais?
Je suis pas un. Comment dire?
T'es pas un technicien?
Non, mais c'est différent pour plein de gens. C'est moi, dans ma manière de fonctionner, ce qui se passe, c'est que je demande jamais rien au départ. Alors, okay. qu'il y en a dans ma position qui demandent. Je considère que puisque j'ai des sous et que donc je suis pas dans le besoin, j'ai pas besoin d'imposer à la personne de me faire une avance.
Okay.
À sa prod ou à la personne en question. Ce qui me permet de bosser, y compris avec des humoristes qui n'ont pas forcément la surface financière de me payer. Donc en gros, le deal, c'est on écrit ensemble, de bonne foi, alors avant si nécessaire, mais moi j'essaie plutôt de le faire de bonne foi à la fin, on calcule, on décide de quel est mon apport dans le texte. Tu vois, si t'es arrivé avec un texte quasi fini et puis que j'ai bossé dessus avec toi un peu, que j'ai bougé 2-3 trucs, bah ça sera 10%.
Okay.
Si on a vraiment tout écrit ensemble, on s'est pris la tête, on a réfléchi, on a tout fait, on a là, ça sera 50. Et
t'es déjà
suite.
Tombé sur des gens qui t'ont dit ah non, toi t'as pas fait. Ou toi tu disais bah
on
vraiment,
pas d'accord
on a bossé
à la fin.
Ouais, c'est ça.
En général, je dis oh, ça me paraît peu. Ah, en fait, le truc. Alors là, on rentre dans un autre truc qui pour moi est très important pour n'importe quelle personne qui veut collaborer avec n'importe quelle autre personne dans tout et n'importe quoi, que ce soit ton mec ou ta meuf pour les tâches ménagères, ouais. Ou que ce soit ton associé, que ce soit ton collègue, que ce soit quelqu'un à qui tu fais un devoir. On ne voit que ce qu'on voit à 100%, c'est ce qu'on a fait nous-mêmes. Tu ne vois jamais 100% du travail que l'autre a effectué. Et donc, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'il y a une discussion autour de ça, il faut trouver le bon équilibre parce que tu seras toujours persuadé d'avoir travaillé plus. Et d'ailleurs, il y a eu des études là-dessus. Hein. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait avec des étudiants en disant est-ce que. C'est marrant parce que tu me regardes parce que je t'en ai parlé off.
Oui.
Ça me permet d'en parler in. Parce que je trouve ça très intéressant. Oui. C'est que t'es avec trois camarades de classe, vous faites un devoir. À la fin, on vous demande qui a fourni quoi dans le devoir. Le total fera toujours plus de 100%. Tu vois, vous êtes quatre. Les quatre vont dire 30%. J'ai fait 30% du devoir. Les autres, à eux trois, ils ont fait que 70% du. Et donc, à la fin, tu dis, bah, c'est fou, parce que ça fait 120%, ils sont les 20%. C'est que c'est logique, tu ne vois que le travail que toi, t'as fourni à 100%. Les autres, tu vois que de façon parcellaire. Donc, j'essaie de garder ça en tête, parce que, par exemple, ça peut m'arriver de considérer, ça m'est arrivé récemment, je bosse avec quelqu'un, et je me dis, oh là, je dois être à 40%. Voilà. Allez, 35. Et puis, quand il m'annonce le truc, en fait, il y avait quelqu'un d'autre.
Quoi ?
Il y avait quelqu'un d'autre qui a bossé avant. Et donc, lui, dans son calcul, il se dit, attends, moi, ce que j'ai apporté, ce que lui, il m'a apporté comme base de travail, c'était déjà quelque chose qu'il avait divisé, lui, dans sa tête.
Ah,
sauf que lui, il fait son calcul global à la fin.
Il n'était pas au courant.
Il dit, machin m'a apporté tant, okay. Pendant 8 mois, il a bossé avec moi. Puis après, il y a Navo qui est arrivé, pendant 2-3 mois, il a bossé avec moi. Bon, allez, disons 20% chacun. Et donc, moi, dans ma tête, j'étais à 40, mais en fait, il y a quelqu'un, tu vois. Et donc, c'est tout un calcul à refaire. Et en soi, c'est pas très grave. Ça reste, je pense, des discussions un peu. Voilà. Je me suis jamais senti trop bafoué, trahi. Ouais. Dans le truc, mais en tout cas ça fonctionne comme ça. Pardon, j'ai fait une longue digression.
Non, mais c'est intéressant.
Donc ce qui se passe, c'est que du coup, une fois que ça c'est décidé, c'est ça la déclaration que tu fais. Souvent les gens croient que les déclarations à la SACEM, à la SACD, c'est pour protéger ton œuvre. Mais non, protéger une œuvre, c'est complètement autre chose. C'est se l'envoyer par la poste ou se l'envoyer par mail, faire la preuve qu'on l'a fait nous. Voilà. Ça peut passer par la SACEM et la SACD, mais c'est pas le but. C'est juste que souvent c'est une preuve, puisque le moment où tu déclares les textes. Oui. Mais en fait, ce que tu déclares à la SACD et la SACEM, qui sont, comment dire, des sociétés de répartition, tu leur dis, il y a un truc qui s'appelle Ahaha, voilà. Ahaha est écrit par machin et Navo. Navo dans Ahaha a fait 40%. Et donc, à chaque fois que quelqu'un en France ou à l'étranger, mais c'est plus compliqué, mais en tout cas, à chaque fois que quelqu'un va exploiter cette œuvre, et que ça va générer de l'argent, et qui va reverser cet argent à la SACD en disant, par exemple, je suis un théâtre, ou une production, enfin en tout cas, la billetterie, va dire, aujourd'hui, on a diffusé, on a joué AAA, voici l'argent pour AAA qu'on est obligé de donner à la SACD. La SACD, elle, est répartie. Donc, elle, toute sa vie, elle reçoit de l'argent de tous les gens, des chaînes de télé, ou la SACEM, pareil, des chaînes de télé, des théâtres. Et elle dit, OK, AAA, c'est 40% pour NAVO. Là, sur tel truc, il y a 100 balles. On donne 40 balles à NAVO. Et c'est la somme de toutes ces répartitions qui font ce que la SACD me verse.
OK.
Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est fabuleux.
Voilà. Par contre, à côté, je pourrais très bien dire, ouais, moi je veux bien, mais en dehors de, à côté de ça, je veux une note d'auteur ou je te fais une facture. Je veux aussi, là, cash maintenant, je veux que tu me donnes temps juste pour travailler avec toi. Voilà, je pourrais faire ça, mais je le fais pas.
Ok.
Alors que pour ce qui est de... ça marche pas pareil en audiovisuel, par exemple. En audiovisuel, je vais demander de l'argent en tant que j'ai travaillé,
ouais.
Et je toucherai des droits d'auteur s'il y a des droits d'auteur à toucher.
Parce qu'il y a plus d'argent là-bas, c'est ça? Tu considères que c'est un peu...
Ouais, parce que c'est pas le même rapport, où moi souvent ça va être des rapports directs avec l'artiste quand j'écris pour un spectacle, alors que dans l'audiovisuel, c'est souvent on vient te chercher, on te fait un contrat d'exploitation de ce que t'as créé, et c'est pas pareil quand t'es réal, c'est pas, tu vois, quand t'es réal, t'es à la fois un technicien et un auteur. C'est-à-dire qu'il y a une partie artistique dans ce que tu fais en tant que réel, mais il y a une partie technique. Donc là, t'es payé pour la partie technique. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'ai une phobie administrative. C'est que quand je dois comprendre qui m'a payé pourquoi, comment et à qui je dois de l'URSSAF ou des machins ou des trucs, mais c'est un bordel, ça donne envie de pleurer. Je touche jamais le même argent pour les mêmes fonctions. C'est jamais les mêmes argent, oui, jamais sûr. La même fonction et jamais la même boîte pour jamais le même poste. Et on te dit, ouais, non, mais ça, il faut le donner à la maison des artistes. Ça, il faut que tu dois de l'argent pour tes points de retraite. Tu vois, moi, le prélèvement à la source, mais ça m'a fait rêver. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, ils prélèvent quasiment jamais à la source dans les milieux où je suis.
Oui, c'est ça, j'allais dire, si, oui.
Si j'ai pas un CDI très simple où mon patron, il a compris qu'il fallait me prendre temps et il enlève temps et il le file au trésor. Mon différentiel, il est de 3000%. Je crois ça que quand il m'envoie mon avis d'imposition, ce qui a écrit, qui a été prélevé à la source, c'est... Allez, je pense que c'était 20 fois moins que ce que je devais. C'est-à-dire que si je regarde pas, si je dis juste « Oh, c'est bon fou, je suis prélevé à la source », je viens de trahir les impôts, mais des sommes qui sont vraiment astronomiques. Et donc c'est compliqué, j'aurais bien aimé, moi, qu'on me prélève à la source et que ce soit réglé dès le départ. Surtout que dans le milieu artistique, je pense que ça fout vraiment la merde. Parce que tout, c'est pas, on n'est pas dans le milieu de la finance, c'est pas des flèches, des tableaux Excel qui touchent cet argent, quoi. Je pense que la première fois que tu touches de l'argent un peu beaucoup et que t'as pas conscience du tout de ce que c'est les impôts, c'est dans ces moments-là hein, que tu te retrouves complètement sur la paille. Les impôts, ils te détruisent. C'est parce qu'en fait, c'est la première fois de ta vie que tu touches autant d'argent, quoi.
Tu m'étonnes. Je voudrais qu'on parle un peu de justement comment t'as grandi. Qu'est-ce que t'as appris, en fait, depuis que t'as de l'argent dans le jeu de l'argent, par rapport à de là d'où tu viens, tu vois, où t'es un milieu, on racontait là juste avant de démarrer que tu t'as compris qu'il y avait un truc tout simple qui était, bah, en fait, tu peux emprunter de l'argent. Et ça, typiquement, c'est pas un truc qu'on t'apprend quand t'es gamin de prol, quoi, parce que...
Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un jeu et il y a quand même un gros intérêt dans ce jeu pour les gens qui y jouent à ce que un maximum de gens comprennent pas les règles. Et c'est vraiment les gens bien placés. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'héritage culturel, de classe, tu vois, sociétal, de réseau, et pour moi, je trouve qu'il est autant important que l'héritage financier. C'est qu'il y a plein de choses qu'on ne te dit pas, qu'on ne t'apprend pas. Tu vois, par exemple, je pensais à ça l'autre jour. Alors, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je trouve qu'il y a une philosophie dedans. C'est... quand on dit que... Je fais une longue digression.
Vas-y, vas-y.
T'auras le droit de la couper si tu veux. Quand on dit que Elon Musk, il est milliardaire.
Okay.
T'es d'accord qu'on a tous compris comment ça fonctionne, les actions. Il n'est pas milliardaire. Puisqu'il n'a pas vendu ses actions. D'où il sort son argent?
Il est potentiellement milliardaire.
D'où il sort son argent? Il est là, on le voit bien, il est dans des jets et tout. D'où sort son argent? En fait, c'est le plus gros emprunteur du monde. Ça veut dire que, en fait, techniquement, ce qui se passe, c'est que lui, il prend ses stock options. Donc, le fait qu'il a des actions, je le fais très résumé, oui. Allez voir Eureka ou je sais pas ce que vous voulez sur YouTube pour comprendre comment ça marche. Mais en gros, lui, il va prendre ses actions, c'est comme une garantie. Il va à la banque, il dit voilà, moi, j'ai 1 milliard en actions, il y a peu de chances qu'elles s'écroulent en 2 secondes. Donc, tu peux me prêter de l'argent à un taux vraiment très cool. Donc la banque lui prête de l'argent. Ça veut dire que à la fois on dit aux pauvres que emprunter, faire des crédits, s'endetter, c'est être pauvre et c'est nul. Et à la fois les gens les plus riches du monde ne font qu'emprunter de l'argent tout le temps, puisque ils ne veulent surtout pas revendre leurs actions. Et donc tu dis, bah, c'est fou parce que c'est la même chose, c'est le même principe, mais qui est tout à fait géré, compris, assimilé et limite félicité pour les très riches, pour les ultra riches, et qui est pas du tout intégré, mal fait, et qui est limite un piège, le piège de l'emprunt, du crédit revolving, etc.
Oui, c'est ça, oui.
Du crédit à la consommation,
ouais.
Voilà. Tu dis, mais c'est fou parce qu'en fait, techniquement, il fait un CTLM, Elon Musk. Il fait juste le CTLM le plus malin du monde et le plus stylé, avec des gens qui travaillent toute la journée pour lui pour remettre cet argent dans des boucles qui lui rapportent de l'argent. Tu dis, ah, il y a quand même un truc où tu dis, c'est la mécanique est la même, mais elle n'est pas du tout vécue de la même façon par les gens parce que ça reste un rapport de domination. Et que Elon Musk, il dit, je ne suis pas dominé, moi. Je vais à la banque et la banque, elle me dit merci. Toi, tu vas à la banque, t'es à découvert de 2 euros de plus que ce que t'as le droit, tu te manges des agios et tu dois dire pardon. C'est jamais la banque qui te dit merci d'avoir mis ton argent chez nous. Alors qu'il prend l'argent de tout le monde et il s'en sert après pour gagner de l'argent. Ton banquier, il sort d'où son argent?
C'est marrant.
Donc j'ai fait une digression, pardon, donc j'ai peut-être sorti de la question.
Non, pas du tout.
Qui était comment je vis l'argent, c'est une grosse carotte. Voilà, c'est ça que je voulais dire depuis le début.
J'allais te dire, on a rebouclé la boucle. Ouais. Mais ça fait, ouais, voilà, ça fait partie des trucs que t'as appris depuis que t'as de l'argent, quoi.
Ouais, et je sais même pas si c'est depuis que j'ai de l'argent. Je pense que c'est en deux temps. Ça veut dire que depuis que j'ai de l'argent, je me rends compte que ça marche pas comme je croyais que ça marchait quand j'en avais pas. Mais c'est pas genre j'ai appris parce que quelqu'un a placé mon argent et m'a expliqué. C'est même pas parce que je suis rentré dans ce monde. C'est qu'en fait, tu peux comprendre ce monde même quand t'as pas d'argent. Mais ta curiosité, elle augmente au moment où t'en as et où tu commences à te demander ce que c'est exactement l'argent, parce que t'en as en fait, tu vois. Il y a un truc où, parce que c'est pas tout le monde s'est mis à placer mon argent, genre il y a Elon Musk qui est venu m'a expliqué. C'est quand t'en as, tu te rends compte que ça ressemble pas à ce qu'on t'avait dit que c'était quand t'en avais pas. Parce qu'on te le vend comme tous tes problèmes vont se résoudre quand t'auras de l'argent, parce qu'on est bien obligé de te dire ça, parce que sinon tu vas plus travailler.
On revient toujours au même problème.
Après, à chaque fois, moi j'arrive, t'es là, on me dit qu'est-ce que tu penses du sable, et j'arrive à faire une boucle et à tenir mes propos de gaucho relou.
Vous avez compris. Le dernier truc dont je voulais te parler, c'est... en fait, on parlait tout à l'heure de patrimoine, tu vois, mais j'ai un peu l'impression que les blagues que t'écris, et que les programmes que tu fais, ça crée aussi une forme de patrimoine pour toi. Parce que si je ne me trompe pas, tu continues à toucher de l'argent de bref, tu vois. Alors certes moins que ce que tu pouvais toucher avant. Tu continues à toucher de l'argent de ouais. Bloqué, de Serge Lemiteau, etc.
Et ouais, c'est le principe du droit d'auteur, ouais.
Ouais, c'est ça.
En fait, d'ailleurs, c'est même devenu intéressant depuis qu'il y a des plateformes et tout. Parce qu'avant, c'était soit une chaîne te diffuse, soit elle ne te diffuse pas. Alors que par exemple, maintenant, quand bref est sur YouTube, même si c'est des sommes beaucoup plus petites que quand tu passes à la télé... À chaque fois que quelqu'un regarde, tu touches un tout petit truc. Donc effectivement, il y a une espèce de patrimoine qui s'accumule petit à petit, parce que je vois bien que plus je vais avancer dans la vie, plus j'aurai fait de choses, plus si ces choses sont regardées à nouveau, je vais toucher de l'argent et que techniquement, ça peut devenir comme une rente. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un moment où la rente devient suffisante juste par rapport à tout ce que t'as de dormant entre guillemets qui se cumule et qui du coup devient un truc que tu touches tous les mois, quoi. Donc oui, c'est possible, et d'autant plus maintenant qu'il y a le streaming.
Oui, YouTube, Netflix, ouais. Peu importe, quoi.
Par exemple, avant, quand t'étais un rappeur, parce que j'aime le rap, mais un musicien, c'était tu touches de l'argent quand tu vends ton album, et après tu ne toucheras de l'argent que si tu passes à la radio ou à la télé en droit d'auteur, si t'es le compositeur et l'auteur-compositeur du truc. Maintenant,
Spotify,
tu touches moins parce que tu vends moins d'albums, mais tu touches beaucoup plus longtemps. Et c'est pour ça qu'on voit, tu sais, maintenant, ils comptent le nombre d'écoutes,
ouais.
Quand ils calculent les disques d'or, les disques de platine, c'est que tu peux voir un rappeur qui devient disque de platine 10 ans plus tard. Or, ça n'arrivait jamais avant, parce que ton album, il était vendu une fois, et puis après, il traînait, mais genre jamais tu pouvais réatteindre des scores. Là, quand t'es un rappeur et que tu ressors quelque chose, Ça, je voulais dire un rappeur. Pourquoi j'ai un rappeur? T'es un musicien et tu ressors quelque chose. Je pense que c'est parce que j'ai la notion que le rappeur, il est quasiment toujours auteur de son truc. C'est pour ça.
Parce que
c'est des droits d'auteur.
Ouais.
Tu sors un nouvel album, ça recrée des écoutes sur ton ancien album. Tu retouches de l'argent sur ton ancien album, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, quelqu'un qui achetait un CD, il pouvait l'écouter une fois ou mille fois, ça ne changerait rien ta vie. Là maintenant, si quelqu'un écoute mille fois, t'es payé mille fois. Beaucoup moins qu'un millième de fois malheureusement, mais t'es quand même payé quoi.
Ça c'est ouf.
Et donc, ça fait effectivement une forme de rente.
Oui, parce que les blagues que t'as pu écrire, je sais pas, par exemple pour Shirley, tu vois. Quand ça, j'imagine que quand ça passe sur Netflix, non, c'est peut-être différent Netflix, non, c'est ça Netflix.
Si, en fait, alors je sais plus, mais si, à la fin, tout le monde doit payer des droits d'auteur. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des trucs bizarres. Netflix, je crois que c'est le cas maintenant. Je crois que quasiment toutes les plateformes maintenant ont payé des droits, mais il y a eu une espèce de flou artistique pendant un moment. Mais non, on est en Irlande, on est au Luxembourg, des trucs comme ça.
Arrêtez.
Si, il me semble. Mais oui, effectivement. C'est mais des fois, en fait, j'ai des nouvelles des copains. C'est-à-dire que je reçois la SACD, je dis. Bon, il est passé sur Rire et Chanson, lui. C'est ce qui te donne le détail. Ouais. Je touche un peu de sous et je fais « Ah oh bah cool, il est passé sur Rire et Chanson. » Mais ce sketch, on l'a écrit il y a longtemps, tu vois. Et donc, je vois bien que ça se cumule parce que je me dis à la fin, même si tu touches 50 centimes par mois pour chaque truc que t'as fait, ça paraît pas beaucoup, mais le jour où t'as fait 2000 trucs, t'as déjà 1000 euros par mois qui tombent tout le temps, quoi.
J'allais dire, tu fais ce métier depuis quand? Depuis 15 ans, c'est ça?
Ouais, à peu près.
Dans 15 ans de plus, tu vois, t'auras fait deux fois plus de trucs, normalement.
C'est ça.
Voire même peut-être plus.
Donc oui, il y a une forme de rente.
C'est trop intéressant.
Ouais.
À base de blagues.
C'est ça.
C'est quand même marrant, quoi.
Ouais. Mais tu vois, c'est assez intéressant de se dire que, par exemple, Jean-Jacques Goldman, quand il y a une soirée spéciale Jean-Jacques Goldman, c'est une somme énorme, en fait. Alors qu'il ne fait absolument rien.
Ouais.
Tant mieux pour lui, hein, je dis pas que c'est... Mais ça veut dire que lui, il est là, il est posé chez lui tranquille, il met la une, il voit qu'il y a une heure et demie de gens qui chantent ses chansons, soirée hommage à Goldman. Il faut peut-être charmer. Parce qu'une heure et demie sur TF1 de SACEM, je pense, c'est quoi, c'est 80, allez, on va dire 100 minutes, j'arrondis, 100 minutes, c'est au moins 500 balles la minute.
Ah ouais.
Donc, au moins, je pense que ça doit même être... TF1, c'est peut-être 1000 ou 2000 balles. Ben là, il fait, attends, je viens de gagner 200 000 euros, là. Je me suis assis sur, sur mon canapé. Oh, il y a une soirée spéciale, moi. Bon, je peux acheter une bagnole de luxe.
Devenez Jean-Jacques Goldman, donc.
Ça, c'est... Voilà. Donc, effectivement, il y a ce rapport, voilà. Mais qui fait un peu rêver les gens. D'ailleurs, c'est marrant, c'est souvent un peu le loto des artistes qui disent, ah, tu sais, genre Patrick Hernandez ou Goldman, ils en parlent tout le temps.
Ouais.
T'imagines, le gars, toute sa vie, il touche de l'argent. Parce que ça, tu vois, le mec qui a écrit la musique de la pub machin, ou le, tu vois, c'est un peu le...
C'est la martingale.
Ouais, c'est le rêve des artistes de dire un jour je ferai un hit, et ce hit, c'est de l'argent pour toujours, tu vois. C'est marrant. Donc oui, il y a un peu ce truc-là.
C'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu voulais rebondir sur l'argent?
Je sais pas si j'ai été très clair.
Si, je crois que les gens
sont un peu dans tous
les
sens.
Les gens sont un peu déçus que t'aies pas donné de chiffres, tu vois. Mais peu importe.
Que j'ai pas. Mais pourquoi les... Oui, mais
c'est un peu le.
Est-ce que c'est si important? Non, c'est ça le but de ton. T'es pas dans. C'est pas capital ton podcast.
Non, mais
je t'en fous de qu'est-ce que touchent les.
En fait, je crois que l'autre truc qui est important, c'est que
tout ce qui raconte ton coach là dans l'épisode 1, j'en ai rien à foutre de ce qui touche. Ce qui m'intéresse, c'est son propos.
Bien
sur
sûr.
L'argent.
Mais en fait, ce qui est intéressant aussi, et que je crois que ça contribue un peu au tabou, c'est qu'il n'y ait pas de chiffres, tu vois. Et c'est toujours intéressant de donner des chiffres, parce qu'en fait, les gens après se confrontent, tu vois, à des chiffres. Par exemple, le premier épisode avec Victoire, enfin donc le deuxième épisode techniquement, mais le premier épisode avec Victoire, quand j'ai dit qu'en fait, elle touchait 25 000 euros mensuels, les gens, ils projettent tout de suite 25 000 euros et ça les fait un peu débloquer. Et puis après, ils l'entendent, tu vois.
Oui, mais parce
parler qu'elle, pendant longtemps.
Mais parce qu'elle, ce qui était intéressant, c'était je suis passé de 25 000 à 4 000.
Exactement.
Mais combien je touche, qu'est-ce que ça change?
Oui, bien sûr.
Non, je sais pas. Hein. En plus,
je
pour le coup, je suis même pas en train de défendre le truc. Ça me dérangerait pas de le dire.
Non,
en fait, depuis tout à l'heure, je cherche s'il n'y a pas un truc que je peux dire, mais je ne trouve pas parce que je suis tout le temps en collab.
Bah oui. Tu m'as dit un jour, tu m'as dit un truc très marrant. Tu m'as dit que t'étais derrière Kian à récupérer les petits sous qui traînaient.
C'est tellement trop. C'est pas des petits sous pour le coup.
Oui,
mais je suis dans l'appel d'air. Non, mais en fait, c'est plus en termes de projet. Moi, je suis toujours dans l'appel d'air de Kian. Kian, tant qu'il m'appelle, tout va bien. Quoi. Le jour où il m'appelle plus, il faut vraiment que je trouve quelqu'un d'autre parce que je suis pas moteur du tout, moi. C'est ça le truc, c'est que je suis pas moteur des projets. Quand tu regardes, tu dis, mais quel projet il a lancé? Aucun. Kian, il adore lancer des projets et il m'appelle pour travailler avec lui dessus. Mais moi, lancer des projets...
Ça te fait pas peur, ça? Tu te dis pas un jour, putain, peut-être qu'il faudrait que je lance un jour un projet, moi?
Je sais pas, ça me saoule un peu, j'ai pas la motive, mais okay. Bon, si un jour je suis obligé. Je veux dire, c'est pour ça que je disais, quand tu parlais là du risque et de machin, c'est que... il peut y avoir, alors moi j'en ai rarement, et parfois j'ai des potes autour de moi qui en ont, donc je les rassure. Ça peut m'arriver d'en avoir, là, quand j'ai eu le coup de ma mère et tout, j'ai eu un moment de, tu sais, tu paniques un peu. Et en fait, je me dis, non mais attends, c'est pas du jour au lendemain, il va falloir que j'aille travailler dans un bureau. C'est, bon, je vais devoir accepter un projet qui était sympa sans plus, pour plein de sous. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, là, le luxe que je me paye, mais Aurel dit ça dans son dernier album, c'est que, en gros, tu payes en ne prenant pas de l'argent une forme de vision que t'as de ce que t'as envie que ce soit ta carrière et ton intégrité, en te disant non, je vais pas faire une pub cochonou, ça m'intéresse pas, ça va pas m'amuser, je vais pas m'épanouir dedans. Et il se trouve que je suis dans une situation financière suffisamment bonne pour ne pas avoir à le faire. Par contre, oui, si demain j'ai besoin d'argent, peut-être je vais faire un truc, et je pense que la plupart des gens vont dire, on s'en fout que tu l'aies fait ou pas. C'est juste que moi je vais dire, ah putain, ce truc, si j'avais argent infini, je l'aurais pas fait. En gros, j'ai suffisamment de sous pour ne faire que ce que je veux.
Ouais.
Quand je fais un truc, c'est parce que j'ai envie de le faire, et il se trouve que ça me rapporte des sous. Un jour, peut-être, j'aurai moins de sous, et donc je ferai quelque chose, parce que c'est très bien payé. Et ce truc peut être très bien, c'est juste que j'aurais pu ne pas avoir envie de le faire, quoi. Je vais me poser la question dans l'autre sens.
C'est intéressant.
Et donc pour moi, le vrai vrai luxe, c'est ça. Le vrai luxe dans ma vie, c'est ça. C'est que je ne fais des projets. En gros, je fais un projet sans jamais me demander combien c'est payé. Même des fois, on m'appelle et on commence à m'expliquer combien c'est payé. Et en fait, je dis non, mais je m'en fous, c'est bon, je le fais. On verra combien c'est payé, tu verras avec mon agent. Mais moi, en fait, je m'en fous, je le fais avec toi parce que j'ai envie de le faire. Donc que ce soit un bal ou un million de balles, à l'heure actuelle, c'est pas pour les balles que je le fais. Donc, on le fait. Et après, juste que je vérifie à l'année, ou on va dire au trimestre, ou je sais pas quoi, c'est si l'équilibre est toujours bon. Mmh. Est-ce que les sous que je gagne sont à niveau des sous que je dépense? Et tant que c'est oui, je fais ce que je veux. Tu vois, c'est vraiment ça l'idée. En fait.
Ouais. Et en ça, ça rejoint un peu ce que Christian Junot raconte justement, c'est qu'il y a un côté un peu, viens donner le meilleur de ce que tu veux donner toi par rapport à la société, par rapport à la vie, par rapport au monde, quoi. Et dans ton cas, c'est des blagues et des projets marrants.
Dans mon cas, c'est même pas la question de ce que je veux donner au monde, c'est la question de qu'est-ce que j'ai envie de foutre.
Ok.
Tu vois, en gros, il pourrait être payé le podcast qu'on est en train de faire. Mm. Voilà. Je le fais quand même.
Ouais, ouais.
Là, en fait, même des fois, je sais pas si je suis payé. Ça m'arrive des fois, on fait un truc, je sais pas, c'est déjà arrivé que Kian, il me dit, tiens, je dis, mais c'est quoi? Il dit, bah, c'est ce truc-là. Je fais, ah, c'était payé. Tu vois, parce qu'en fait, tant que j'ai l'équilibre, c'est une question que j'ai pas envie de me poser, et pour moi, c'est la vraie, vraie liberté. C'est pour ça que je disais, c'est ma liberté, c'est l'argent. C'est cette liberté-là. C'est que je n'ai pas, et j'ai un train de vie qui n'est pas trop,
élevé
par rapport à la situation, on va dire, je suis un transfuge de classe, mais dans ma classe, je suis pas si dépensé que ça par rapport à d'autres gens. Tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est prendre des taxis et manger dans des restos. Donc, c'est déjà un grand luxe, en fait. Et partir en vacances. Voilà. Mais pas partir dans les plus grands hôtels du monde où les chiottes sont en or, etc. Je m'en fous d'avoir un jet, je m'en fous d'avoir une Rolex, etc. Donc, j'ai choisi mon train de vie, j'ai un certain train de vie, je choisis mes projets et il se trouve que ça s'équilibre. Donc, je reste là-dedans.
Merci Bruno.
Mais de rien, Fabou.
C'était super.
C'est vrai?
Oui, je crois.
J'ai peur d'être un peu parti dans tous les sens.
Non, je crois pas. Bah, comme d'habitude, mais en même temps,
Mais à chaque fois que je suis avec toi, je pars dans tous les sens.
Non, mais.
Je me dis, mais il me recadre ou il me cadre pas? Parce que des fois, tu me laisses parler, je me dis, mais est-ce qu'il m'a recadré?
Bah, parce que j'avais pas envie de te recadrer. C'était pas par peur ou je sais pas quoi.
Ça va, c'était assez clair.
Oui, tout à fait.
Ok.
Parce que si t'es pas clair, je te le dis, hein, tu sais.
En fait, c'est surtout s'il y a quelque chose que tu voulais que je dise à part combien je gagne.
Non.
Et que j'ai pas dite. Bah, tu me connais bien.
Je t'en aurais parlé.
Ok. T'as l'impression que j'ai dit tout ce que t'aimais bien que je t'ai déjà dit sur les sous.
Oui. Okay. Et d'autres choses dont on n'avait jamais parlé pour le coup.
Mais en tout cas, ce qui t'a fait te dire.
Oui, ça pourrait
ça
être intéressant
d'avoir tu l'as eu.
Je l'ai.
Ah, ce que j'ai peur, parce qu'on a déjà fait des interviews où c'est parti complètement en l'air et après tu dis, mais il n'y a rien dedans, putain, qu'est-ce qu'on a fait.
Ouais. Non, mais t'as parlé de toi et ça m'a. C'était cool.
Ok.
Merci beaucoup.
Au revoir, les amis.
Salut.